La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Avec, pour décortiquer l'actu, comme tous les jours, vos grandes voix jusqu'à 19h sur Europe 1. Ce soir, autour de vous et toujours à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Jean-François Pérez, chef du service des sports. Et tous les soirs, nous faisons le tour de la France. Nous sommes en Gironde, à Bordeaux, ce soir avec notre correspondant Stéphane Place.
Bah bien sûr, bonsoir Stéphane Place, bonsoir les grandes voix, Jean-François
bonsoir,
Pérez,
bonsoir à tous.
Bienvenue à tous. Alors écoutez, j'ai envie ce soir de vous interroger, bien sûr sur le 14 juillet et sur l'hommage aux soignants. Bien sûr, on va y venir dans un petit instant, c'est promis. J'étais en ligne avec mon invité, le neurologue, là, il y a quelques instants, vous l'avez peut-être entendu, François Salacas, on va y revenir. Mais quand même, cette question des plages qui commence comme ça à se libérer, et les doigts de pied avec... Pas pour nous, ça s'est pas gagné, ni dans le gazon parisien, ni dans le gazon en Île-de-France, on n'y est pas du tout. Alors Ève Roger, d'abord sur le plan, j'allais dire, de la santé, des infectiologues, qu'en disent-ils ? Et puis ensuite sur le plan politique avec vous, Mickaël Darmon. Alors.
C'est vrai qu'on a. J'avais envie de faire un peu le point parce que je trouve que les arguments d'Anne Hidalgo sont pas idiots, c'est-à-dire il y a une énorme densité, absolument, que plutôt que tout le monde se mette au bord du canal Saint-Martin, on les voit sur berge ou sur les trottoirs. Pourquoi on n'ouvre pas les espaces verts ? Alors j'ai fait mon petit tour des infectiologues et la réponse est plutôt du côté du ministre de la Santé, parce que si vous voulez, ils disent ouvrir les parcs et les jardins, c'est en fait donner une opportunité au rassemblement, c'est-à-dire c'est l'ouverture qui crée le besoin ou l'envie ou le désir, et que c'est exactement ce qu'il faut éviter, c'est les rassemblements. Et comme c'est plutôt, vous voyez le profil, jeunes gens qui ont des petits appartements, qui ont envie de se retrouver ensemble et de faire des fêtes ou en tout cas être ensemble et être souvent les proches des uns des autres, c'est très difficile de leur dire qu'ils ne peuvent pas se réunir, de ne pas voir leurs copains, par-dessus, c'est impossible à surveiller. Donc il y a vraiment cette tendance qui est de dire c'est vraiment trop tôt. Alors il y en a un qui m'a dit, on peut peut-être ouvrir les squares. Les petits squares, mais
ils vont être pris d'assaut.
C'est ça, pas les grandes étendues, pas les buts de Chaumont, pas le Luxembourg. Et puis une dernière m'a dit, plutôt non, toujours sur ce thème-là, c'est-à-dire on va pas leur donner l'occasion de fabriquer des foyers épidémiques, surtout dans cette région où le virus circule beaucoup. Elle dit peut-être à la condition que tout le monde soit obligé de porter un masque. Et on en revient à une autre polémique, on en parlera une prochaine fois. Mais globalement, c'est quand même plutôt...
Mickaël Darmon, on n'y est pas, de toute façon. On sait que c'est aussi un enjeu pour ces municipales, pour Anne Hidalgo, on en parlait hier. C'est vrai qu'on aimerait bien que nos enfants puissent faire de la trottinette ailleurs que sur les trottoirs parisiens, mais
on n'est surtout pas dans la cohérence politique, en l'occurrence, et dans la cohérence même des du gouvernement avec lui-même. D'abord, parce que pour reprendre déjà l'argumentation donnée par les médecins à Ève, dans ces cas-là, pourquoi le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, périmètre parisien, sont-ils à ouvert ?
Tout à fait. Ouais.
Pourquoi les riverains de parisiens du bois de Boulogne et de Vincennes peuvent, eux, aller profiter d'un parc et jardin ô combien étendu ? Donc déjà, les gens vont tout simplement se demander, mais qu'est-ce qu'on nous veut ? Voilà, qu'est-ce qu'on nous veut après avoir été confinés dans souvent des petits endroits ? Qu'est-ce qu'on nous veut ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, pour revenir sur un terrain plus politique, ce déconfinement devait se faire à l'aune de ce qui a été appelé pompeusement la déconcentration, et en donnant toute confiance aux maires. Ça a été répété maintes et maintes fois, martelé par tous les membres du gouvernement, claironné, ils nous ont fait du violon là-dessus. Et voilà que lorsque une édile, en l'occurrence pas n'importe laquelle, dit « moi je compte sur quelque part la responsabilité, le civisme des Parisiens, on va contrôler, on va filtrer, on va même parfois sanctionner, mais allons-y », et ben voilà que l'État d'en haut dit non. Franchement, pour que les gens comprennent, il va falloir vraiment que le gouvernement soit extrêmement convaincant.
Et puis l'argument d'Anne Hidalgo est imparable quand même. On ne pourra pas contenir les Parisiens sur les trottoirs. C'est vraiment la messe est dite.
Alors pour porter et pour aller prolonger un peu ce qu'on avait déjà un peu esquissé hier, bien évidemment, elle a compris que cette faiblesse de l'argumentation gouvernementale est pour elle la capacité de pouvoir scénographier sa première opposition en tant que future maire. Parce que bien évidemment, vous ne rencontrez personne dans les couloirs de l'hôtel de ville qui pense une seule seconde, qu'elle ne sera pas réélue en juin ou
en
on verra bien. Peu importe. En tout cas, c'est elle qui... Et elle agit déjà en tant que nouvelle mandature. On le voit bien.
On a compris.
Et elle envoie également un message aux autres forces de gauche. Donc, tout cela est une, effectivement une opération dont elle a saisi la fréquence politique. Et comme souvent, le gouvernement n'a pas saisi la fréquence politique.
Voilà, exactement. Alors, les parcs, les jardins à Paris, c'est niette. Les plages, en revanche, et notamment en Loire-Atlantique, c'est yes, n'est-ce pas Stéphane Place, voilà, c'est presque de la provocation, mais voilà, les plages, oui, les plages, il y a de l'espace, on peut y pratiquer certaines activités, mais pas bronzer hein, chez vous.
Non, alors je pense que, vous savez, on en a parlé il y a quelques jours, où la position de la préfète ici en Nouvelle-Aquitaine, et qui est aussi la préfète de la Gironde, était de dire... Niette, pas d'ouverture de plage. On a un risque de brassage de population trop important. Là, de toute évidence, cette semaine, puisque les maires, vous le savez, ont profité de la porte qui a été ouverte par le gouvernement, ont déposé des demandes auprès de la préfecture pour obtenir des réouvertures de plage. D'après ce que je sais, il y a une vingtaine de maires en Gironde, par exemple, qui a accompli cette démarche. La réponse va être donnée vendredi au cours d'une visioconférence entre la préfète et ses élus, vendredi matin. De toute évidence, la position va évoluer. La position de l'État là-dessus va évoluer, mais sous conditions. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un impératif de cohérence. Il ne s'agit pas d'avoir une plage qui, dans telle commune du littoral, est ouverte avec des dispositions différentes de celles du voisin, voire que celle du voisin reste fermée. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une concentration sur la plage ouverte très importante. C'est exactement ce que veulent éviter les autorités. Donc le concept de plage dynamique demeure plus que jamais d'actualité. On vient, on pratique par exemple du surf et on s'en va, on ne reste pas. Il y aura sans doute des horaires, de toute évidence, d'après ce que l'on m'a dit, parce qu'on veut aussi éviter le fameux pique-nique qui rassemble beaucoup de monde fin de journée sur la plage. Donc tout ceci va être extrêmement cadré, mais de toute évidence, on va vers une réouverture des plages, par exemple en Gironde, dès le week-end prochain, où il va faire très beau.
Bah voilà, c'est tout, oui. Bon, allez, je reviens vous voir, évidemment, dans quelques instants. On va parler sport aussi avec vous, Jean-François Pérez, qu'on est ravis d'accueillir. Bienvenue, Jean-François.
Bonsoir.
On parle de football, notamment. On était hier avec Bernard Joannin, le club d'Amiens, qui accuse le Caux, relégué administrativement en Ligue 2 après l'arrêt du championnat de France en raison du Covid. Est-ce qu'il a raison d'aller en justice? Parce que c'est l'objectif, là. Il veut se battre jusqu'au bout.
Oui. Bon, en tout cas, l'initiative de son club fait beaucoup parler. C'est déjà une première réussite. Amiens, 19e de Ligue 1. Donc, c'est un club qui refuse la fatalité parce que, comme l'a dit hier sur Europe 1, la maire de la ville, une élection ne se termine pas au premier tour s'il n'y a pas de majorité absolue. Pas plus d'ailleurs qu'un match à Roland-Garros interrompu par la nuit. Alors, du coup, le club a saisi le tribunal administratif de Paris. Les dirigeants sont persuadés de leur bon droit. Ils rêvent d'une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine. C'est du jamais vu et les statuts ne le prévoient pas. Et le fait que ce soit le gouvernement doit ordonner la fin de zone, sans compter qu'il y a une loi en cours écrite qui va protéger les fédérations des recours. Tout ça ne laisse théoriquement que peu d'espoir à Amiens. Amiens qui estime à 30 millions d'euros quand même les pertes éventuelles, ce qui veut dire suppression d'emplois directs et indirects. Alors vous avez peut-être vu qu'il y a eu des personnalités du foot qui ont appelé à la grève des joueurs et des entraîneurs en cas d'échec. Mais attention, Nathalie, il pourrait y avoir une peine. Dans cette histoire, parce qu'il y a une attente de décision de justice dont le temps ne correspond pas à celui des compétitions sportives. L'un est long et plus Amiens va se rêver en Ligue 1 et plus cher les risques de le payer si le tribunal lui donne tort dans quelques jours ou quelques semaines, parce qu'on ne prépare pas une saison en Ligue 1 et en Ligue 2 de la même façon.
Dans la même manière, évidemment. Alors on va observer ça avec vous, évidemment. On va se retrouver les grandes voix dans un petit instant pour refaire le tour. On parle politique, société, foot aussi avec vous ce soir. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et oui, la voix est bonne, a dit le président de la République aujourd'hui. Plusieurs grands médecins se montrent optimistes. On parle bien sûr du Covid et peut-être pas de deuxième vague. En tout cas, a-t-on passé le pire ? Ève Roger, je vous pose pas vraiment la question, mais on a envie de se dire que peut-être, peut-être le pire est derrière nous. Et pour ça, il faut surveiller certains indicateurs, lesquels précisément, pour voir si l'épidémie est tassée.
Oui, c'est vrai qu'on a très envie de voir, de savoir, parce qu'on en peut plus d'attendre cette deuxième vague qui qui va arriver, peut-être pas. Et c'est vrai que les indicateurs, ils sont sournois, un peu comme l'épidémie, c'est-à-dire que les bons indicateurs, on ne les aura pas avant 15 jours, 3 semaines, parce que comme la maladie met du temps à incuber, puis le temps que les signes apparaissent, et puis qu'ensuite les formes sévères apparaissent, c'est vrai que les hospitalisations, même les admissions en réanimation, ça ne sera pas avant début juin, donc c'est d'où cette fameuse date du début juin. En revanche, il y a deux indicateurs qui sont un peu précoces, qui peuvent peut-être nous éclairer. C'est d'abord le nombre de tests. Parce que vous savez que depuis hier, je vous l'ai déjà raconté, qu'on peut aller faire un test. Donc effectivement, ça, on pourra assez vite. Et j'ai fait mon petit tour de piste aussi cet après-midi. Et ça augmente. Alors, il y en a qui me disent 5 plus 5%, d'autres me disent plus 50. Donc à mon avis, là, comme d'habitude, la vérité doit être un peu au milieu. Non, voilà, c'est ça. Mais ça veut dire que ça augmente. Et donc ça, c'est plutôt un signe qui peut dire que, en tout cas, les gens font l'effort d'aller se faire dépister pour un premier symptôme. Et puis... Il y a un deuxième indicateur qui est assez étonnant et on n'y pense pas souvent, c'est les stations d'épuration. Parce qu'on retrouve le virus dans les eaux usées et c'est vrai que c'est aussi un indicateur précoce. Il y en a 3 qui sont installés à Paris, il y en a 1 dans le Grand Est, d'autres à Clermont-Ferrand, et on peut voir très vite, presque en temps réel, la présence du virus dans les eaux usées. Et ça, je pense que c'est un indicateur qu'il va falloir surveiller de près aussi, si on veut avoir une réponse très rapide. Après, on attendra le fameux R0. Combien on contamine, et ce R0 aussi, on a presque 15 jours à 3 semaines avant d'avoir les chiffres au fur et à mesure.
On est évidemment extrêmement prudent, savoir raison garder. Michaël Darmon, dites-moi une chose. On reste sur le sujet du Covid, bien sûr, et du post-déconfinement, avec une date, le 14 juillet. Je crois qu'Emmanuel Macron avait dit que ça serait cette date-là, précisément, pour repartir. Le vrai jour d'après, ce sera celui-là. Mais il s'adresse aussi, là, à ceux qui ont été en première ligne, les soignants. Ils vont être mis à l'honneur à ce moment-là. Vous l'aviez déjà dit, d'ailleurs, sur Europe 1, il y a déjà 3 semaines de ça, quand le président était en déplacement en Bretagne. Annonce quand même là officialisée et fraîchement accueillie par ses équipes, justement, par ses soignants.
Oui, parce que en réalité, on voit bien, et d'ailleurs votre invité tout à l'heure l'a bien fait sentir, une fois qu'on aura applaudi pendant 2 mois et que ça va forcément aller en s'étiolant, une fois qu'il y aura la médaille, apparemment, donc de l'engagement contre l'épidémie, qui peut-être aussi sera organisé dans un hommage un peu plus général, peut-être avec les fameuses deuxièmes lignes également, telles que la réflexion de l'Élysée pourrait être avancée. Toutes ces personnalités-là, et en particulier les gens à l'hôpital, vont dire bon, ok, maintenant, so what, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien, on a la médaille, on a été applaudi, et on va rester avec l'hôpital public dans cette situation-là, plus que le sonnant et le trébuchant, voire également la remise à plat totale du système, du système de santé, en tout cas du système de l'hôpital public. Et c'est là, évidemment, qu'Emmanuel Macron va être attendu, parce qu'on se souvient parfaitement des propos à Mulhouse, où il annonçait un plan massif pour faire une refondation totale de l'hôpital public. Et si, effectivement, on a le sentiment qu'il n'est pas au rendez-vous, alors ça pourra être aussi la matrice d'une colère assez, assez importante.
Bien sûr, et on a vu déjà des petites mobilisations comme ça par-ci par-là, notamment à Toulouse, c'était lundi. On va bien sûr parler tourisme avec vous, Stéphane Place, depuis la Gironde, parce que on attend beaucoup demain du gouvernement, notamment ce plan de soutien à 1,3 milliard d'euros en vue. On y reviendra d'ailleurs avec Jean-Baptiste Lemoine demain soir à 18h20. Le tourisme chez vous, région extrêmement fréquentée, la Gironde.
Oui, puis j'étais encore cet après-midi sur le bassin d'Arcachon, justement, avec des propriétaires de campings. Ce sont des professionnels aguerris, il faut imaginer. Alors, ce sont des campings, pour l'un d'entre eux, là, il y a 1500 emplacements, donc forcément, ils étaient partis sur une saison très, très prometteuse, avec 3 fois le nombre des réservations habituelles, puisque, vous savez, on est sur une période de l'année, en plus, où les ponts s'enchaînaient merveilleusement bien. Tous les voyants étaient au vert, et puis évidemment, confinement. Patatras. Et aujourd'hui, ils sont dans le brouillard complet. C'est-à-dire qu'ils disent, un, on nous infantilise, on ne nous fait pas confiance, on a bien compris qu'il fallait faire des aménagements. Ils ont déjà commencé à y réfléchir. L'un des propriétaires de camping qui m'a reçu cet après-midi, il portait une visière de sécurité, il en a commandé pour tout son personnel. Ils sont déjà en train de réfléchir à l'aménagement, par exemple, des blocs sanitaires, en disant, on va faire des couloirs, on va limiter le nombre, on aura du personnel pour surveiller. Pareil pour la piscine. Enfin, ce sont des gens qui, encore une fois, réfléchissent avec toutes les données que l'on connaît les uns et les autres concernant la vie d'après ou la vie de maintenant, en tout cas, avec le virus. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on ne leur donne ni indication sur une date possible de réouverture. Donc, en attendant, leur trésorerie plonge. Il n'y a pas de réservation. Et puis, ils ont gelé aussi les embauches, ce qui n'est pas rien dans un département comme la Gironde et sur l'ensemble des stations balnéaires françaises. Ils ne vont pas commencer à dire, bah oui, toi, je t'embauche en juin. Toi, ils ne savent pas où ils vont. Donc, forcément, donc ils sont aussi dans une attente de confiance, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne. Ils rappellent que ce sont, comme tous les entrepreneurs, des gens qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Donc, ils veulent avoir des informations de ce point de vue-là. Et pour l'instant, ils n'en ont, disent-ils, aucune.
Ouais, alors, on verra demain ce qui est dit. Outre les sommes annoncées, et d'ailleurs j'y reviendrai hein, avec Gérard Brémond qui est le PDG de Pierre et Vacances, il sera mon invité à 19h15. Jean-François Pérez.
Ah. Je disais Nathalie, au-delà des sommes, hein, la revendication principale, c'est qu'ils disent mais laissez-nous travailler, on va travailler différemment mais laissez-nous travailler.
Mais bien sûr, c'est bien pour ça que on lui posera demain la question à Lemoine, bien sûr, sur Europe 1. Jean-François Pérez, une tempête autour d'Adrien Rabiot hein, depuis le week-end dernier, hein, et c'est peu dire. Le footballeur français, bien sûr, qui est normalement là toujours au chevet de sa mère, hein, malade en Argentine. Et y a toute cette affaire autour de son retard à la reprise de l'entraînement collectif, question de salaire ou pas, bref. Est-ce qu'il est vraiment dans la provoque? Est-ce qu'il est vraiment à côté de la plaque, Adrien Rabiot? Il dérange en tout cas.
Bon, c'est un drôle de dossier. Rabiot, précisons que le joueur qui est au chevet de sa maman en Argentine, c'est Gonzalo Higuain. C'est pas Adrien Rabiot qui, lui, a vécu son confinement. Alors, voilà. Ouais. En France, sur la Côte d'Azur, il est attendu à Turin ce soir. Mais le problème, en effet, c'est cette histoire de baisse de salaire qu'il aurait refusé dans un contexte où, évidemment, on attend beaucoup les footballeurs professionnels sur ce thème-là. Et lui, dément catégoriquement cette histoire. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas très chaud, ça c'est sûr, pour retourner rapidement en Italie. Il va être placé, quand il va revenir, en quatorzaine, comme on dit. Il va reprendre l'entraînement au plus tôt le 28 mai. Et c'est là que le bât blesse, parce que tous les étrangers de la Juventus sont déjà revenus pour reprendre le 18 mai, Cristiano Ronaldo en tête, et le retard de Rabiot, du coup, il fait d'autant plus jaser que le français, c'est quand même l'un des plus gros salaires de tout le championnat italien, 8 millions d'euros annuels, et on attend de lui, c'est quand même la moindre des choses, une conduite et un professionnalisme irréprochable, et du coup, cette histoire de grève que le joueur réfute, hein, je répète, a écorné un petit peu plus son image dans ce contexte. Rappelons quand même que Rabiot, c'est un duo, il y a Adrien, le joueur international, pétri de qualité, et Véronique, sa maman, et conseillère. C'est une famille qui fait des étincelles, un bras de fer avec le Paris Saint-Germain, un refus d'être réserviste en équipe de France avant la Coupe du Monde 2018. C'est un joueur qui a une image un peu froide, un peu arrogante. Il divise, et peut-être ce soir on peut dire il divise même au sein de son propre club, et son histoire va peut-être s'arrêter avec la Juventus dans les semaines qui viennent.
Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'avais confondu cette maman avec l'autre maman. Vous avez bien fait de me corriger. Désolé, Jean-François Pérez. Il y a des dossiers hein, qu'on maîtrise moins que d'autres. le ballon rond. Dites-moi, Mickaël Darmon, je vais revenir vous voir dans une seconde. On va faire d'abord un détour par Séoul avec Ève Roger. Mais on a beaucoup parlé hein, hier de nouveaux cas de Covid, notamment à Wuhan, hein, berceau hein, du virus, et de cette action-réaction, parce que très vite, on met des tests en place. Et puis, il y a aussi cette notion de contacts, des fichiers téléphoniques qui sont donnés aux autorités par les opérateurs. Et là aussi, on va extrêmement vite. Hein. Et là, ça se passe à Séoul.
C'est à Séoul. Vous savez, il y a ce week-end dans une boîte de nuit à Séoul, il y a eu des nouveaux cas, un foyer épidémique. Et les autorités ont obtenu les coordonnées de 10 000 personnes, 10 000 numéros de téléphone, c'est-à-dire dans les 15 derniers jours, tous les gens qui avaient été à peu près 30 minutes dans le quartier. Et ils ont obtenu ces fichiers par les opérateurs téléphoniques et ils leur ont envoyé un SMS en leur disant « faites-vous tester ». Et cette histoire est assez emblématique, je trouve, parce que c'est un quartier où se retrouve la communauté homosexuelle à Séoul. Et là-bas, l'homosexualité, elle n'est pas interdite, mais elle n'est quand même pas très bien vue. Donc il y a beaucoup de ces jeunes gens qui étaient là pendant les 15 derniers jours, qui ont rechigné, parce qu'ils se sont dit, ça veut dire qu'il faut, je vais aller me présenter, on va savoir qui je suis par rapport à mon employeur, par rapport à ma famille, etc. Et donc, les autorités ont quand même garanti l'anonymat. Et au moment où ils ont dit, OK, l'anonymat est garanti, à ce moment-là, ils ont vu arriver des gens. Donc, il n'y a plus que 2000 personnes qui n'ont pas été jointes, qui n'ont pas pu faire de test. Mais il y a quand même des policiers à leur trousse, avec une amende de 1 500 € s'ils ne se présentent pas faire les tests. Ah donc oui. Je trouve que c'est assez ahurissant quand on voit ça d'ici. Et on se dit, mais nos... Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, nos débats sur Stop Covid, vous savez, les cas contacts, franchement, c'est rien du tout. Quoi. Donc, il doit y avoir le Stop Covid. Il n'y aura jamais votre numéro de téléphone, ni jamais votre nom. Vous ne recevrez jamais de numéro de SMS de la part, je ne sais pas, du préfet ou du ministre de la Santé pour dire allez vous faire tester. Hein. Vous aurez un identifiant et c'est cet identifiant qui sera mis dans les fichiers, etc. Donc je trouve que cette histoire à Séoul, à la fois, ça marche très bien. Ils ont eu donc 8 000 sur 10 000. Et puis les gens ont été rassurés quand on leur a dit on va garder vos fichiers, vos noms anonymes. Ouais.
Bien sûr. Alors, Michael Darmon, on va conclure avec vous. Dites-moi, le moral des Français et leur confiance en l'exécutif, il a été très affecté pendant cette crise liée au Covid. Ça a été souvent plutôt très laborieux pour le gouvernement. Il a perdu cette bataille de la confiance et durablement.
En tout cas, il a perdu la bataille d'une forme de cohérence. Et de lignes claires que les Français peuvent saisir dans la volonté du gouvernement. Cette polémique autour des plages et des parcs et des jardins à Paris en est encore un exemple, puisque aujourd'hui d'ailleurs en Seine-Saint-Denis le grand parc de la Courneuve a pu rouvrir. Donc le préfet de Seine-Saint-Denis, il appartient au même état que le préfet, les préfets et autres autorités donc sur le territoire. Et en particulier à Paris. Donc il y a cette idée-là. Je suis assez frappé par la manière dont également le compte-rendu du gouvernement a été fait du Conseil des ministres aujourd'hui. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il y a 3 étapes qu'il faut bien surveiller. L'étape actuelle, celle du 2 juin, la période estivale et un éventuel reconfinement pour donner de la confiance. Il va falloir quand même également, une fois de plus, qu'il soit très convaincant.
Aussi. Là aussi, bon bah décidément, on n'est pas sortis. Merci beaucoup, merci les grandes voix, merci à vous de m'avoir accompagné.
À demain,
sans faute.